Du chapitre 14 au verset 13 du chapitre 15, nous avons la conduite en relation avec le royaume du Seigneur. Nous avons vu qu'au chapitre 12, les exhortations aux croyants sont principalement en vue de leurs relations les uns avec les autres, comme membres d'un seul corps. Au chapitre 13, les exhortations ont en vue notre conduite en rapport avec le monde que nous traversons. Dans le chapitre 14, jusqu'au verset 13 du chapitre 15, les exhortations sont en relation avec le Seigneur et se rapportent à notre conduite en tant que sujet de son royaume. Cette section de l'Épître commence par parler de l'esprit dans lequel nous devrions nous recevoir l'un l'autre et se termine avec des exhortations qui, si elles étaient suivies, nous lieraient ensemble dans la joie et la paix. L'apôtre ne parle pas de la réception dans l'assemblée, mais de se recevoir l'un l'autre. Un individu recevant un autre individu dans les relations chrétiennes ordinaires. Chapitre 15, verset 7. Il est important de voir la vraie portée de ce passage, car il a été très souvent utilisé à tort pour soutenir l'idée fausse que, du fait qu'une personne est chrétienne, et dans ce sens a été reçue par Dieu, nous sommes tenus de la recevoir dans la communion de l'assemblée, sans tenir compte de ses associations et de son état spirituel. Dans nos relations les uns avec les autres, nous avons à nous rappeler que nous sommes des sujets dans le royaume de Dieu, chapitre 14, verset 17, et que chacun est responsable vis-à-vis du Seigneur qui gouverne dans son royaume. Dans ce royaume, certains peuvent être faibles dans la foi et d'autres forts, chapitre 14, verset 1 et chapitre 15, verset 1. Mais tant les faibles que les forts, tous sont responsables vis-à-vis du Seigneur. Par conséquent, dans les affaires où aucune question morale n'est en jeu, ou dans lesquelles il n'y a pas de désobéissance directe à la parole de Dieu, chacun doit être laissé libre d'agir devant le Seigneur, sans que les uns aillent interférer chez les autres. L'apôtre fait référence à deux questions ayant ce caractère, celle de manger ou de s'abstenir de manger certaines viandes, et celle du respect ou du non-respect de certains jours. Ces questions avaient tout naturellement une place majeure dans les jours de l'apôtre où de nombreux convertis étaient d'origine juive et avaient du mal à débarrasser leurs esprits des préjugés formés par leur ancienne religion qui faisait grand cas des viandes et du respect de certains jours. Les croyants d'origine païenne étaient plus facilement disposés à laisser de côté de telles choses, voyant que les systèmes idolâtres auxquels ils avaient été rattachés étaient totalement faux. Or, de telles questions ne devaient pas interférer dans les relations chrétiennes, mais devaient plutôt faire l'objet du support chrétien. Les faibles ne sont pas ceux qui tolèrent le mal ou qui marchent dans la désobéissance à la parole, mais plutôt ceux qui ne sont pas dans la pleine liberté du christianisme, ceux qui peuvent être très légaux sur des points mineurs, et qui donc ont une conscience non seulement délicate, mais même maladive. Chapitre 14, versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Or, quant à celui qui est faible en foi, recevez-le, non pas pour la décision de questions douteuses. L'un croit pouvoir manger de toutes choses, l'autre, qui est faible, mange des herbes. Fin de citation. Les faibles en foi, donc, ne doivent pas être mis de côté, ils doivent être reçus. Néanmoins, leur réception ne doit pas être utilisée pour simplement trancher ce genre de questions. Celui qui est reçu ne doit pas penser que sa réception implique l'acceptation de ses vues particulières sur les viandes ou sur les jours. En outre, la réception de ceux qui sont exercés sur ces sujets ne doit pas être une occasion, pour ceux qui les reçoivent, d'interférer dans leurs convictions de conscience devant le Seigneur. L'un croit qu'il peut manger de tout, l'autre, que l'apôtre décrit comme faible, croit qu'il est juste de ne manger que des herbes. Versets 3 et 4. Citation de l'Écriture. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi, qui juges le domestique d'autrui? Il se tient debout, où il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Fin de citation. L'apôtre nous enseigne que, sur ces sujets, il doit y avoir du support mutuel. Il donne trois raisons pour cela. D'abord, Dieu a reçu à la fois le faible et le fort. Le fait qu'il nous ait reçus ne dépend pas de ce que nous mangeons ou pas certaines viandes. Deuxièmement, dans de tels sujets, nous nous tenons debout ou nous tombons pour notre maître et nous n'avons pas à juger les serviteurs d'autrui. Troisièmement, le Seigneur est capable de nous soutenir et de nous faire tenir debout, même si, en la matière, nous sommes faibles en foi. Versets 5 à 8. Citation de l'Écriture. L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui a égard au jour, y a égard à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, ne mange pas à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Car nul de nous ne vit ayant égard à lui-même, et nul ne meurt ayant égard à lui-même. Mais soit que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourrons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Fin de citation. L'apôtre inclut aussi la question de respecter ou pas les jours particuliers. Son argument implique que, quel que soit le point de vue adopté, qu'il s'agisse de jours ou de viande, chacun agit comme se tenant devant le Seigneur. Aucun de nous ne vit ayant égard à lui-même, mais ayant égard au Seigneur. Il est bon de voir que l'apôtre ne parle pas ici du jour du Seigneur. L'observation du premier jour de la semaine en tant que jour du Seigneur a la sanction de l'Écriture et n'est pas laissée comme une question ouverte. Voir Jean 20, verset 19, Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2, Apocalypse 1, verset 10. Versets 9 à 12. Citation de l'Écriture. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il a revécu, afin qu'il dominât et sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi, et que toute langue confessera hautement Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Fin de citation. Christ a établi ses droits sur nous en mourant et ressuscitant, de sorte que, comme Seigneur vivant, il domine à la fois sur les morts et sur les vivants. Le Seigneur est le juge, et c'est devant son trône de jugement que nous nous tiendrons tous. Chacun est responsable de rendre compte pour lui-même à Dieu. Ainsi, dans les 12 premiers versets, nous sommes avertis de ne pas méconnaître la conscience d'un autre devant le Seigneur en ignorant les droits du Seigneur sur chacun, ou en interférant avec nos responsabilités individuelles vis-à-vis du Seigneur. Versets 13 à 18. Citation de l'Écriture. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé par soi-même, sauf qu'à celui qui croit qu'une chose est souillée, elle lui est souillée. Car si à cause d'une viande ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé, car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui en cela sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Fin de citation. Jusque-là, l'apôtre nous a montré le devoir clair de ne pas interférer avec autrui sur des questions de viande ou de jour. Maintenant, il montre un autre motif qui doit nous garder de nous juger les uns les autres sur ces sujets. Nous devons marcher selon l'amour, verset 15. Animés par des considérations d'amour pour notre frère, nous veillerons à ne pas mettre de pierre d'achoppement sur son chemin, verset 13. Paul était pleinement persuadé qu'aucune viande était impure en elle-même. Verset 14. Mais si manger de la viande donnait mauvaise conscience à un frère, cela allait devenir une occasion de souillure pour lui. Nous devons veiller alors à ne pas utiliser notre liberté pour nous efforcer de persuader un frère de faire quelque chose contre sa conscience. Nous le persuaderions alors d'agir au-delà de sa foi, et, quant à la portée de notre action envers lui, nous l'amènerions à violer sa conscience et donc à l'éloigner de Christ. La liberté du christianisme, dont nous pouvons jouir à juste titre, peut ainsi devenir une occasion de chute pour d'autres et ainsi être blâmée. Verset 16. Le royaume de Dieu n'est pas caractérisé par ce que nous mangeons ou buvons, mais par la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Verset 17. Voilà les caractéristiques morales du royaume dont le croyant peut jouir aujourd'hui dans la puissance de l'Esprit. Tous en jouiront universellement quand le royaume sera établi en puissance. Ce sont les qualités à poursuivre tant par les faibles que par les forts. Ces choses sont agréables à Dieu et approuvées par les hommes. Verset 18. L'effort d'imposer ma liberté à autrui, si elle choque sa conscience faible, est condamné à la fois par Dieu et par l'homme. Versets 19 à 23. Citation de l'Écriture. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. À cause d'une viande, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, il est vrai, sont pures, mais il y a du mal pour l'homme qui mange en bronchant. Il est bon de ne pas manger de chair, de ne pas boire de vin, et de ne faire aucune chose en laquelle ton frère bronche, ou est scandalisé, ou est faible. Toi, tu as de la foi, et la part devers toi-même devant Dieu. Bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu'il approuve. Mais celui qui hésite, s'il mange, est condamné, parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. Fin de citation. L'apôtre nous a exhortés à marcher selon l'amour et à ne pas faire chuter notre frère. Maintenant, il nous exhorte à poursuivre la paix et les choses qui permettent de s'édifier les uns les autres. Chercher à persuader un frère faible de faire ce qui peut lui donner une mauvaise conscience risque de détruire l'œuvre de Dieu dans son âme et de devenir une occasion de chute pour lui. Il est préférable de ne pas manger de viande, ni de boire de vin, si, en le faisant, nous offensons notre frère et lui causons du tort. Si nous avons de la foi pour faire certaines choses, nous devons l'avoir devant Dieu. Être fort en foi est bien, mais nous n'avons pas à chercher à conduire un autre à faire quelque chose sur quoi il hésite. Cela pourrait le conduire dans une voie qui ne soit pas un chemin de foi, et tout ce qui n'est pas fait sur le principe de la foi est péché.